C'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. À Rencontre spirituelle, nous allons parler de ça, l'anniversaire du décès d'un garçon de 16 ans et demi qui a tellement eu une vie remarquable que son procès de béatification est déjà rendu à Rome et on est à peu près certain qu'il sera canonisé. Pourtant, il n'est mort qu'en 1963. Son nom, Faustino Pérez, P-E-R-Z, et le nom de sa mère, Mandlano. C'est vraiment un enfant exceptionnel, un jeune sportif enthousiaste, un enfant merveilleux, fils de médecin. Et sa vie a été racontée par le père José María Salaverry, qui est un marianiste et qui l'a très bien connu et qui a été son directeur spirituel. Alors je m'inspire donc d'une brochure qu'il a écrite et c'est passionnant à lire et je vous assure, c'est remarquable, mais vraiment remarquable. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Voici donc un enfant qui risque d'être déclaré saint par l'Église. Comme je vous ai dit, son procès de béatification est en cours à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, dont je vous parlerai dans quelques jours. Pourquoi des saints dans l'Église? Il écrit, ce prêtre, dans sa présentation, José María Salaverry, marianiste, « S'il y a quelques années, quand j'étais jeune prêtre et directeur d'un établissement d'éducation chrétienne, on m'avait dit que le Vatican allait s'occuper sérieusement d'un de mes élèves, j'aurais souri. Cela m'aurait semblé un beau rêve ou même une plaisanterie. Bien sûr, j'ai toujours été fermement convaincu qu'une éducation chrétienne doit être une éducation pour la sainteté. Et comme il ajoute, « en vue d'une plénitude humaine et divine », parce qu'un saint remplit son humanité totalement, ou presque, et il se remplit de Dieu, la présence de Dieu. Et il ajoute une éducation pour la sainteté anonyme de la Toussaint. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, l'Église célèbre tous les saints, les foules anonymes, les millions et les dizaines de millions de saints que l'on ne connaît pas. Nos parents, nos grands-parents peut-être. Nos enfants qui sont décédés déjà. Et le Concile Vatican II a beaucoup insisté, n'est-ce pas, sur la vocation universelle à la sainteté. C'est très beau les textes des évêques du Concile à ce sujet, que tout le monde, y compris les enfants, sont appelés à la sainteté. Mais que Faustino, ce jeune garçon que j'ai rencontré, dit ce prêtre, pour la première fois quand il avait 12 ans, soit aujourd'hui un candidat ferme à la canonisation, j'en suis tout émerveillé. Car qu'a-t-il réalisé de spécial pendant sa vie si courte et si semblable à celle de tant d'autres jeunes de son âge? Il me semble que le secret de Faustino, hein, c'est comme Saint Faustin, on a Saint Faustin pas loin de Montréal, un lieu de villégiature autrefois, F-A-U-S-T-I-N-O, Faustino. Donc il me semble que le secret de Faustino, dit ce prêtre, est d'avoir su dire oui au bon moment. C'était bien son idéal quand le 20 octobre 1960, il écrivait « Je vais essayer de dire oui à tout ce qui est bien ». Et dans sa petite vie, sa courte vie, on peut découvrir surtout quatre oui décisifs. Alors, je vais vous parler des quatre oui de sa vie. Le premier oui, c'est une dette de chapelet, c'est un enfant. Le récit du père Salaverry, c'est vraiment un témoignage. Alors, je vais me contenter de le lire, puis de m'en inspirer aussi. C'est tout récent, ça vient de paraître il y a 2 ans. Le petit garçon lui dit un jour, « Mon père, je voudrais vous poser une question, car j'ai un problème, j'ai une dette envers la Sainte Vierge. » C'est pas qu'étienne, soyez pas surpris de ce dialogue entre ce jeune garçon de 12 ans et ce prêtre. Et le prêtre dit, « Je regardais un peu narquois ce petit garçon frêle et gentil, qui semblait sérieux et souriant à la fois, une dette envers la Sainte Vierge. » C'était bien la première fois que j'entendais une chose pareille, et dans la bouche d'un adolescent d'à peine 13 ans. Même pas. Voyant mon air étonné, il continua, « Oui, mon père, il y a 3 ans, j'ai promis à la Sainte Vierge de réciter le chapelet tous les jours jusqu'en 1961. Je le récite par petits bouts, en particulier quand je vais seul au collège. » Mais en vacances, quand nous nous amusons beaucoup, j'oublie parfois de le faire. Et cependant, je tiens mes comptes et j'essaie peu à peu de me rattraper. Je ne me souviens pas trop du montant exact de sa dette envers la Sainte Vierge, dit le prêtre, mais c'était autour d'une bonne centaine. Alors je l'ai rassuré, je dis, voyons, Faustino, tu aimes réciter le chapelet? Il dit, oui, mon père, beaucoup. Alors, nouvel étonnement de ma part, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un adolescent qui prie spontanément le chapelet. Et je me souvenais de, vous savez, les voyants de Fatima, là, Lucie, Jacinthe et François, qui bâclaient un peu le chapelet que la Vierge leur avait demandé de réciter tous les jours. Ils avaient de la difficulté à le réciter, ces enfants-là. Et d'ailleurs, je n'ai jamais su d'où était venue à Faustino, dit le prêtre, l'idée d'une promesse si difficile, du moins pour un enfant, car on ne récitait pas habituellement le chapelet à l'école. Et chez lui non plus. Alors, écoute-moi, Faustino, je lui ai dit. La Sainte Vierge est une mère et on ne tient pas de compte avec sa mère. Nous allons considérer tes dettes comme acquittées. Et sans promesse ni inquiétude aucune, sans faire de compte, continue à réciter le chapelet pendant toute ta vie si c'est possible. Alors cet enfant, âgé d'à peine 10 ans, quoi, c'est pas 12 ans, c'est 10 ans, sans trop s'en rendre compte, avait prononcé le premier oui important de sa vie quand il avait dit oui à la récitation du chapelet, ça, 2 ans plus tôt. Il n'avait consulté personne. J'allais ajouter, curieusement, il n'avait consulté personne. On lui aurait dit, ce qui est bien raisonnable, que c'était un peu trop pour son âge. Et heureusement, car ce oui, naïf, son premier oui, mais de ce oui va couler comme de source tous les autres. Et c'est en 1957, que je l'ai connu, il avait 11 ans, 12 ans. En octobre, je venais d'être nommé directeur du Collegio Nuestra Señora del Pilar, à Valence ou Valencia, une belle ville espagnole sur la Méditerranée. C'est un port important, c'est la 3e ville d'Espagne par sa population, c'est donc une très grande ville. Et autour d'elle, dans sa huerta, son verger, les orangers s'étendent à perte de vue, c'est très beau. Ils embaument de leurs fleurs l'atmosphère du printemps, hein, comme nos pommiers. Et ils réjouissent aussi la vue en décembre par leurs arbres chargés de fruits dorés au soleil. Les hivers sont moins rigoureux là-bas, comme vous voyez. Faustino Pérez Manglano, qui est né le 4 août 1946, a passé... est né après une période qui n'était pas très facile pour l'Espagne. Il avait eu en Espagne la guerre civile... 10 ans plus tôt, en 1936 jusqu'en 1939, une guerre civile épouvantable qui avait heureusement réussi à éviter la guerre mondiale. Mais l'Espagne n'a pas évité les conséquences de tout ça. C'est une époque plutôt austère, hein? Ce qui, malgré tout, a présenté quelques avantages, car on court moins, peut-être, le risque de gâter les enfants. Alors, ses parents, qui s'appelaient Faustino, comme son fils, le père, même prénom que son fils, et sa mère s'appelait Encarna. C'était connu à Alicante, une ville à quelques 200 kilomètres au sud de Valence, où Faustino, le père, là, étudiant en médecine, accomplissait son service militaire dans l'aviation. Il avait même pensé y rester dans l'aviation, car il avait décroché son titre de pilote, brillamment d'ailleurs. Il était premier de sa promotion, son père. Il a renoncé, puis a fini ses études de médecine, puis s'est marié, puis un an après est né Faustino, fils. Il est devenu, Faustino, ce petit garçon, l'aîné de 3 autres enfants, 2 filles, Maria Encarna comme sa mère, et Eugenia, et le petit dernier, Joaquin, ou Joachim, si vous préférez. Et pendant les grandes vacances, ils vont passer tous les ans un mois à Alicante, c'est très beau, sachez, les grands-parents maternels. Et Faustino appréciait beaucoup cette ville, sa plage. Il aime plonger, il aime nager, il aime courir sur le sable, jouer avec ses nombreux cousins et cousines, et non seulement à la plage, mais surtout sur le terrain de l'usine, là, c'est le moulin de son grand-père, où se trouve même un pigeonnier abandonné. Il deviendra bientôt le chef d'une bande de 12 cousins et cousines, puis il déborde de vie. Il invente des jeux, il s'amuse à fabriquer des espèces de cabanes. C'est vraiment un petit garçon. Et Faustino crée une sorte d'union entre tous ces enfants-là, il s'impose pas, c'est comme spontanément. Il y a en lui une gentillesse unie à une fermeté qui lui attirera plus tard l'admiration et même le respect des grandes personnes. Mais je veux pas aller trop vite. J'en profite pour dédier cette émission à mon petit-fils de 12 ans, qui est un peu comme ça. Né en 1900, mon petit-fils Pascal. En 1952, Faustino a 6 ans. Et il faut bien penser à l'envoyer à l'école. Je recule dans le temps. À la maison, les avis sont partagés et sa mère pense aux jésuites. Mais le père penche plutôt pour le collège del Pilar. C'est un établissement fondé par des marianistes. Les marianistes, on les retrouve à Saint-Anselme, près de Québec en particulier, où j'ai déjà prêché une retraite et j'ai trouvé que ces prêtres, cette paroisse, était extraordinaire à Saint-Anselme. C'est là où habite Louise Brissette avec ses 25 enfants, presque tous handicapés. Alors, l'établissement des marianistes avait été fondé peu de temps auparavant, donc à Valence, et le père l'amène, et voilà Faustino inscrit dans ce collège. Et puis, le futur fondateur des marianistes à l'époque s'était réfugié à Saragosse, et il avait une grande dévotion à la Notre-Dame del Pilar. C'est pour ça que ça s'appelle le collège del Pilar. Et puis, Faustino est un élève vif et gai, qui étudie sérieusement sans se trouver parmi les premiers, par exemple. Il aime le sport et par-dessus tout, il aime le football. Son père et sa mère sont exigeants quand même, mais gentiment exigeants. Ce sont de très bons parents. Ils aimaient raconter avec humour la fessée qu'il lui avait donnée. Et lui-même la racontait à ce petit garçon. Il avait reçu cette fessée pour une désobéissance inutilement camouflée par un mensonge. Et n'a plus jamais recommencé à mentir s'il avait désobéi. Et chaque année, le professeur responsable de la classe envoie un rapport aux parents. On a retrouvé d'ailleurs celui de l'année 57-58, en voici quelques lignes. Il est maigrelet, mais sérieux, travailleur, respectueux et affable. Et Faustino est un garçon très gentil. Il se révèle bien doué. Il a une bonne mémoire, une attention souple. C'est un ami de la paix. Sans bruit, sans tapage, simple et affable avec tous, et son âme est limpide et transparente. Elle est ouverte aux sentiments les plus généreux. C'est un garçon docile, sincèrement pieux. Et le professeur finit son rapport en s'adressant directement à Faustino. « C'est très bien, mon Faustino. Nous sommes contents de toi. Il ne faut pas en rester là. Il est fort possible qu'à partir de maintenant, continuer sur cette voie devienne de plus en plus difficile. Alors, Faustino, il faut mûrir. » Et le père Salaverry, son ancien professeur, ajoute dans le texte de cette brochure, « C'est précisément cette année-là que j'ai rencontré Faustino. » Il avait donc 11 ans. Au mois de septembre de 1960, il commence à écrire son journal, ce petit garçon. Un journal tout simple, en quelques lignes, presque tous les jours. Et le prêtre dit, « Je ne l'ai su que 2 ans plus tard, quand il m'a confié son intention de le détruire. » Il disait, « Car je n'ai cru que des bêtises. » Et heureusement, « j'ai pu l'en dissuader, ajoute le prêtre, et lui ai conseillé d'écrire quelques lignes seulement, quand il aurait quelque chose qui lui viendrait à cœur. » On peut distinguer donc 2 étapes dans son journal. Et sans le savoir, le premier jour, il note les premiers symptômes de la maladie qui va l'emporter. À ce moment-là, il a 14 ans, c'est le 14 septembre 1960, il dit « Je me suis réveillé avec cette fameuse douleur. » Elle est partie. « J'ai fini de lire Mario Gaetan, un beau roman. » J'ai aidé un peu Fausto à arroser. À 9h15, j'ai récité le chapelet. Il se trouve alors chez sa grand-mère dans un village, donc situé à 50 kilomètres de Valence, à l'intérieur de la province. Il écrit le 15 septembre, le lendemain, il a beaucoup plu. Et sous la pluie, je suis allé à vélo me confesser. Mais ne voyant pas le père, je suis retourné à la maison, puis à 9h, j'ai récité le chapelet. Alors, il était toujours fidèle à son chapelet, cet enfant, puis il dit, le 3 octobre 1960, dans son journal, « Les cours ont commencé, je suis allé à la messe et j'ai communié. J'ai récité presque tout le chapelet. Je suis allé m'inscrire pour les cours de judo. Je veux aussi faire du dessin. » Dans son journal, donc, il n'oublie jamais de noter qu'il a récité son chapelet. Il est fidèle à ce « oui » donné à la Sainte Vierge. Jour après jour, on retrouve « j'ai récité le chapelet à tel moment ». Et ainsi de suite jusqu'à sa mort. Et il n'en parlait à personne, bien sûr. Un jour, d'ailleurs, un camarade l'a surpris, le chapelet à la main. Sur le trajet, il se rendait à l'école. Et Faustino a souri, mais gardé tranquillement son chapelet. Il a continué son chemin avec son ami en parlant de football, certainement, car c'est un supporter acharné de l'équipe de sa ville natale, qui est la 3e ville d'Espagne, qui a un club de football extrêmement important. Et puis, il écrit le 17 octobre dans son journal, j'ai resté le chapelet. J'ai eu un examen oral en sciences naturelles et j'ai bien répondu. J'ai parlé 10 minutes avec Jésus-Christ, aussi bien du match nul de Saragosse-Valencia que des missions. Il parle à Jésus comme ça, tout normalement. Il est devenu un véritable ami de Jésus. Et ce chapelet si fidèlement récité lui a donné le sens de la vie intérieure puis de la présence du Seigneur Jésus dans sa vie. Il ne voit pas le Christ, bien sûr, il n'y a pas d'apparition, mais il sait qu'il est là, tout près de lui, en lui. Il y croit et il le sait. Il lui parle donc avec la spontanéité d'un ami, et c'est ça le résultat imprévu de ce « oui » au chapelet. Et le second « oui », bien, c'est « ici Dieu me parlait ». À l'encontre du premier « oui », le second « oui » a une date très précise, c'est le 22 octobre 1960. Et même un moment exact, c'est le repas du soir. Avec ses camarades de classe, il participe à ce moment-là à une retraite spirituelle, dans une maison qui est tenue par des religieuses à une quinzaine de kilomètres de Valence. Les prêtres du collège vont tous les jours parler un moment avec ceux qui le désirent, et Faustino est très content de sa première journée. Il vient de commencer l'équivalent du lycée en France, ou du collège, quoi. Et le prêtre qui écrit ce texte lui pose la question, que vas-tu faire plus tard? Médecine, comme papa? Oh non, dit la médecine, ça me dit rien. Alors ingénieur, architecte, quelque chose de ce genre? Tu as bien choisi l'option science, me semble. Il dit, je n'en sais rien encore, mon père. Il dit, la chimie me plaît beaucoup, mais je ne sais pas. Et sans trop de conviction, le prêtre lui demande, et tu n'as jamais pensé, Faustino, à te consacrer à Dieu? Tu n'as pas songé à la possibilité d'un appel du Seigneur à la vie religieuse, à devenir prêtre? Il dit, non, non, à vrai dire, jamais. Et c'était bien la réponse que j'attendais, dit le prêtre. J'ai aussitôt pensé à ce jeune homme riche de l'Évangile. Vous vous souvenez l'histoire, je ne vous la raconte pas, tout le monde la connaît. Et Faustino n'était pas un enfant gâté, mais il ne manquait de rien. Il avait tout. Il pouvait aspirer à un bel avenir. Alors, le lendemain, Faustino demande à voir le prêtre. Il lui dit, j'ai bien réfléchi. Je veux me consacrer à Dieu. Alors je veux devenir comme vous, marianiste. Il est radieux, convaincu. Il dit qu'il l'a vu clairement pendant le dîner et que c'est chose faite. Le prêtre lui dit qu'il est très jeune, qu'il faut approfondir ce premier appel, qu'il doit prier pour voir bien clair. Il dit, il m'écoutait très sérieusement, mais il n'y voit pas l'ombre d'un doute et le Seigneur l'appelle. Il fera tout pour répondre. Le prêtre dit, j'ai accompagné un certain nombre de jeunes en recherche de vocation, mais je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. D'habitude, on voit les doutes, les peurs, les dérobades, mais le oui de Faustino est clair et ferme. Il est définitif. Et dans son journal, à la date de ce 22 octobre, qu'il n'a jamais oublié, on peut lire, je vous rappelle, il n'a que 14 ans, nous avons parlé de pas mal de choses. Mais il en est une qui m'a frappé. Quelle vocation vais-je choisir? Médecin, chimiste, ou peut-être serais-je prêtre? Cette dernière possibilité est celle qui m'a le plus impressionné. Dieu m'a-t-il choisi? Il me le dira. Durant la journée, les quelques heures qui restent de ma retraite, je vais garder un silence complet. Et si Dieu me parlait? Il espère. Et le lendemain, le 23 octobre, il note tout simplement dans son journal, « Le Père et moi, nous garderons le secret de ma vocation jusqu'à ce que je sois sûr de l'avoir vraiment. Je ne peux plus contenir ma joie, tellement je suis heureux. Oh, comme il est merveilleux, le Christ !» Et dans son journal, on peut trouver 48 références à sa vocation, puis des phrases courtes. Il écrit, mettons, « Chaque jour, ma vocation augmente, je suis très content. » Il écrit aussi, « Il est difficile de ne pas me disputer avec mes sœurs. Ma vocation grandit chaque jour. Je veux être religieux marianiste. » Et un jour, sa mère devine tout. Ah, l'intuition des mères, hein? Mais s'y oppose pas. Et là, il écrit dans son journal, « Nous sommes trois maintenant à garder le secret. Hein, le prêtre, sa mère et lui. » Et la vie continue jusqu'en décembre, où il tombe malade. Mais la maladie, loin de diminuer son désir de se consacrer à Dieu, l'aide à lutter, à se surpasser. Le 9 janvier 1961, il écrit, « J'ai commencé à écrire, plutôt à lire, « La cravate bleu ciel », un roman d'Hugo Vaste. J'ai prié mon chapelet le soir et j'ai pensé à la vocation. Deux semaines plus tard, il écrit « Je crois ma vocation. Oui, je crois ma vocation. Elle est sincère. Mais je crains le moment de le dire à papa. Je ne sais pas comment il va réagir. » Et plus tard, il dit, il écrit « Le bonheur pour moi, c'est d'être marianiste. » Le 22 juin, en plein été, il écrit « Il y a 8 mois, aujourd'hui, que le Christ m'a montré le chemin que je devais suivre. Ô Christ, mon idéal sera de vivre toujours en communion avec toi, afin que je me rapproche chaque jour un peu plus de mon but, de ma vocation, être un religieux au service des hommes par amour pour toi. » Et en septembre, Faustino recommence l'année scolaire avec enthousiasme. La maladie semble vaincue, il se sent beaucoup plus fort. Il a été très heureux en vacances malgré le repos imposé. Il a dû renoncer à 2 de ses passions favorites. Quelles sont ses passions favorites? Oh, la nage puis les randonnées en montagne. Il n'a pas du tout oublié l'appel du Seigneur, au contraire. Il écrit le 18 juin 1961, « Très Sainte Vierge, ma mère, je veux être marianiste. » J'ai chaque jour davantage le désir de passer le baccalauréat, pour son diplôme, pour pouvoir devenir marianiste. Une fois que je serai religieux, tu sais bien, ma mère, que j'aimerais être ordonné prêtre, afin de pouvoir prendre dans mes mains le corps et le sang de ton fils. C'est ce qu'il y a de plus grandiose. Bonne nuit et à demain. Il dit bonne nuit et à demain à la Sainte Vierge. C'est très sympathique pour un garçon, et on voit qu'il vit naturellement la vie spirituelle, la présence de Dieu, la présence de Marie. Alors, religieux marianiste, prêtre et pourquoi pas missionnaire. Sans date précise, il écrit à 15 ans, « J'ai pas mal médité et j'ai découvert que peut-être Dieu veut que je parte comme missionnaire, si seulement c'était vrai. » Et puis, il écrit aussi, « Ma vocation est formidable. J'ai de plus en plus envie d'être marianiste. » Dieu est-il en train de me demander d'être missionnaire? Et vers la fin de l'année scolaire, c'est chose faite, il écrit, aujourd'hui, il y a 20 mois que Dieu m'a dit de le suivre. C'est merveilleux de penser que je serai toute ma vie au service de Jésus et de Marie. Je serai un pêcheur d'âmes. J'ai bien réfléchi. Et j'aimerais partir comme religieux marianiste en Amérique du Sud, où il manque tant de mains pour sauver les âmes. Alors, Faustino a tiré toutes les conséquences du oui qu'il a donné au Seigneur le 22 octobre 1960, presque 2 ans plus tôt. La fidélité, la constance se trouvent parmi ses qualités les plus caractéristiques. Il a toujours tenu parole, coûte que coûte. Ce qu'il a promis, on peut être sûr qu'il va l'accomplir. Il est précis, il est minutieux même. Mais en lui vive un grand bon sens, une grande liberté intérieure. Et à partir du moment où il entend l'appel de Jésus, son amour qui le pousse, qui lui donne une paix intérieure merveilleuse, une joie indescriptible, un sens des besoins des autres vraiment admirable, le remplit. Le tout est résumé dans un sourire qui ne l'abandonne pas. On a dit de lui, il était tout sourire. Presque personne ne connaît cette intense vie cachée dans son âme, car de l'extérieur, il ressemblait à tout le monde, Il était gay, il était farceur à ses heures. C'était un amateur de cinéma, de romans, de football. Il était heureux d'aller camper sous une tente, et tout cela jusqu'à la fin. Sa vie est centrée sur 4 oui. Nous sommes rendus à ce 3e oui qu'il dit à la souffrance. Il tombe malade. Lui, ce jeune sportif. Et le père Salaverry, qui a écrit sa vie, écrit « Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était vers la fin de février 1961. » Depuis quelques semaines, Faustino manquait l'école, et un coup de téléphone de ses parents m'avait demandé un rendez-vous pour l'après-midi. On m'avait dit, c'est très important. Ils sont accourus tous les deux, bouleversés. Son père, médecin, me montra le résultat des analyses. C'était très inquiétant. Lymphogranulomatose maligne, maladie de Hodgkin. Sauf erreur ou miracle, rien à faire. Tant qu'on pourrait compter sur l'erreur ou le miracle, on ne dirait rien, Faustino. On l'aiderait à lutter pour la vie. Mais je n'oublierai jamais, dit le prêtre, les paroles de Madame Pérez Manglano, sa mère. Au moment de prendre congé, elle lui dit, « Vous savez, mon père, il me semble que cet enfant est trop bon pour vivre dans le monde. » J'étais interloqué, je n'y comprenais plus rien. Je me surprenais à dire au Seigneur, Tu l'appelles à la vie religieuse et au sacerdoce. Tu lui donnes une vocation qui a tous les caractères d'authenticité. Il te dit oui avec une générosité sans limite. Et maintenant, tu lui envoies une maladie mortelle. Mais que veux-tu de lui, Seigneur? Et depuis lors, j'ai tout compris. La vocation, une vraie vocation, et la maladie, ensemble, ont permis au Seigneur, à la Sainte Vierge, de le façonner, d'en faire un saint, un modèle pour les jeunes, et un missionnaire du haut du ciel, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on fête le centenaire de la mort cette année, elle qui est patronne des missions et qui n'a été que cloîtrée dans un carmel. Mais pour arriver à cela, Faustino a dû prononcer un troisième oui. Un oui à la souffrance, et c'est pas facile. Pas facile quand on est jeune, quand on déborde de vie, quand on est plein d'enthousiasme pour l'avenir. Et suivront deux années avec des hauts et des bas. Il y aura des espérances, des inquiétudes. Il y aura des périodes où Faustino doit être alité, des périodes où il se sent revivre, où il peut mener une vie normale. Ah, les inquiétudes, les espérances qui se succèdent. Une situation de ce genre, c'est pas facile à vivre, et le oui de Faustino à la maladie et à la souffrance n'est pas du tout une acceptation résignée, là, l'inévitable, pas du tout. Il va faire face. C'est un vrai petit gars. Ne pas se laisser aller, ni se laisser briser. Il va lutter avec toutes ses forces. Et dans les périodes où il est obligé de s'aliter, il s'organise du mieux possible. Il se fixe un règlement de vie, un règlement souple. Mais il va le suivre. Il traîne pas au lit le matin. Il va rester fidèle. Il tient à ses heures d'études. Pour rien au monde, il ne voudrait perdre une année. Ce qui l'éloignerait de la réalisation de son rêve de devenir marianiste le plus tôt possible. Il veut pas perdre le contact avec ses amis. Et quand il va se sentir mieux, ben il va aller en montagne avec eux. Et ses parents l'ont toujours laissé libre de réaliser tout ce dont il se sentait capable. On s'habitue à le voir toujours si courageux. Et on dit, il cachait si bien sa souffrance avec un sourire qu'on s'en apercevait même pas. C'est un de ses camarades de classe qui a dit ça. Mais tout de même, il vit des moments pénibles et voici ce qu'il écrit après les deux premiers mois de maladie, un jour où il se trouve mal en point. Il a de la fièvre, des douleurs et même des étincelles de mauvaise humeur. Il a 14 ans à ce moment-là. C'est le 20 janvier 1961. « Je dois faire un profond examen de conscience, » écrit Faustino, « car il y a longtemps que je ne me suis pas confessé. Ma maladie est en train de me rendre négligent dans mes devoirs envers Dieu. » J'ai récité le chapelet le soir. Une quinzaine de jours plus tard, il écrit, « À 8 heures, les médecins doivent venir me voir. J'ai peur. Mais j'offrirai ce sacrifice pour les pécheurs, car demain, à la Croix-Rouge, on va me faire une incision sous le bras pour prélever un morceau de ganglion puis l'analyser. Oh Jésus, je veux être fort pour supporter tout, sans me plaindre. Marie, prie ton fils qu'il me donne ces forces qui me manquent. » Et le jour suivant, il résume tout ça, « Ça me fait passablement mal, je n'ai pas pu prier du tout. » Mais Faustino sait où il faut chercher les forces qui lui manquent. C'est dans la méditation de la Passion du Christ, dont on va célébrer le souvenir à la fin du mois de mars, et dans le recours à Marie aussi, dans la communion fréquente. À 15 ans, il écrit, le 26 février 1962, « Quand nous méditons sur la Passion du Seigneur, nous voyons tout ce qu'il a souffert pour nous, tout par amour. Il nous aime d'un amour infini, il ne pense qu'à nous. Comment ne pas lui rendre un peu de cet amour si grand? Je pense que c'est une bonne raison pour lui consacrer toute notre vie. » Alors, le prêtre écrit, « Jamais je n'oublierai ma visite chez lui quelques jours avant sa mort. Il était cloué au lit, les jambes enflées. On pouvait lire la souffrance sur son visage. Je lui demandai comment il se trouvait et la réponse est venue, toujours la même. « Oh, bien, bien. » Et j'insistais, « Mais dis-moi, Faustino, tu as mal? » Je ne sais pas, ça dépend du point de vue. » Du point de vue. Le prêtre dit, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait me dire. À la fin, il eut cette réponse admirable qui me laissa bouche bée. Écoutez bien ça de la bouche d'un enfant. Voyez-vous, mon père, je pense qu'en ce moment, beaucoup d'autres souffrent plus que moi. Je ne peux pas me plaindre. Et le prêtre dit, je ne sus quoi lui dire. Il avait peut-être appris cette leçon à Lourdes, Vous savez, Lourdes, le lieu de pèlerinage dans le sud de la France, le grand lieu de pèlerinage, où il est allé au début de juillet 61. Il se sentait alors en forme et il participait quand même au pèlerinage des malades de Valencia, sa ville. Et 3 trains, 250 malades et bien d'autres pèlerins. Il était heureux d'aider autant qu'il le pouvait pour pousser les malades. Et dans son journal, il exprime l'impression profonde que Lourdes a laissée en lui. Et son souhait d'y retourner un jour comme brancardier. Écoutez bien ce qu'il a écrit le 3 juillet 1961. Il avait presque 15 ans à ce moment-là. On est si bien à Lourdes. Je pense que le plus grand miracle de Lourdes, c'est la quantité de conversions qui s'y produisent. C'est extraordinaire de voir comment des malades très gravement atteints ne prient pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont à leur côté parce qu'ils ont davantage besoin de vivre, parce qu'ils ont charge de famille. C'est extraordinaire écrire des choses comme ça à cet âge, hein? Et d'ailleurs, les autres passaient toujours avant lui. À sa mère qui voulait le veiller, il disait « Maman, va dormir, c'est pas juste. Que ce soit moi qui souffre, c'est normal, car la maladie, elle est à moi. Mais que tu doives souffrir à cause de moi, non, c'est pas juste. » Et pendant 2 ans, Faustino a fait face avec courage. Avec entrain, il n'a jamais perdu ni la joie, ni l'envie de vivre. Et dès que la médecine de choc qu'il recevait se traduisait par une amélioration, bien, il reprenait le plus possible ses activités habituelles. Puis pas seulement l'étude, là. Ben, évidemment, il ne peut pratiquer de sport, mais il va applaudir son équipe préférée, le Valencia. Et puis, il accompagne les athlètes de l'école. Il va sac au dos en montagne. Pendant 3 semaines, durant l'été 1962, à la veille de ses 16 ans, il campe en France et en Suisse. Il ne pourra pas aller avec les autres sur la mer de glace dans les Alpes, là, c'est trop haut. Mais il est heureux, quand même. Il faut sinon s'éjouir de la vie. Un de ses camarades nous a laissé ce témoignage magnifique. J'étais son compagnon sous la tente et dans le cœur. Il était toujours le même. Il ne se fâchait jamais. Il était toujours prêt à se dévouer, à se contenter du moins bon, pourvu que les autres soient le reste. Je crois sincèrement que quand quelqu'un a un défaut, c'est au cours d'un camp de vacances que cela se remarque le mieux. Je peux seulement dire qu'après les 20 jours pendant lesquels j'ai dormi et mangé avec lui, je n'ai pu lui découvrir aucun défaut. C'est pas étonnant, donc, que Faustino ait pu écrire dans son journal ses paroles émouvantes. Ce sont le meilleur résumé de sa vie, c'est son testament. Il écrit ça le 27 mars 1962. « Je suis très heureux. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais Dieu soit loué, je n'ai pas connu le malheur. Et je suis toujours heureux. » On sent quelque chose au-dedans de soi, un si grand amour pour lui qui m'a toujours conduit par la main, qui n'a jamais permis, ne serait-ce qu'une seule fois, que je commette un péché mortel. Je ne sais ce que c'est que d'avoir des problèmes. Oh, je te remercie, Seigneur, pour le bien-être intérieur si merveilleux que tu me donnes. Je t'en suis très reconnaissant. Et son 4e oui, ben c'est le oui à la mort. En octobre 1962, Faustino, qui a 16 ans, retourne à l'école. Il est plein d'enthousiasme. Du point de vue santé, les grandes vacances se sont révélées, somme toute, assez encourageantes, et même très encourageantes. Et après la tournée en France et en Suisse, il écrit au père Salaverry, son directeur, marianiste, « J'ai beaucoup aimé ce voyage. » Tout m'a plu. Je crois que ces jours m'ont aidé à renoncer davantage à moi-même pour les autres. J'essayais d'être le plus serviable possible. Quelques jours plus tard, il écrit « J'ai hâte de voir se terminer l'année scolaire 1962-63 pour aller au noviciat, pour entrer chez les marianistes, quoi. Cet été, je n'ai pas perdu ma vocation, bien au contraire, elle augmente de jour en jour. » Alors il veut préparer le terrain en faisant connaître sa décision aux personnes les plus chères. Et voilà pourquoi, vers la fin de septembre, il écrit une lettre à son cousin et grand ami, Augusto, qui habite Alicante. Le connaissant bien, il craint que son cousin n'arrive pas à comprendre sa décision. Il dit, dans la lettre, « J'ai une nouvelle à te communiquer. Vers la fin août de l'année prochaine, je m'en irai au noviciat marianiste. Je vais devenir religieux. Et plus tard, si Dieu le veut, je serai prêtre. » « Je sais que tu vas être très contrarié. » Son cousin Augusto s'étonne. « Mais Il accepte. Et Faustino est enchanté que son meilleur ami connaisse son grand secret et l'accepte. Dans un an, il pourra aller au noviciat pour se consacrer au Seigneur et à Marie. Et cette pensée lui donne des forces insoupçonnées. Et le prêtre, son directeur, dit « Je me souviens du 22 octobre 1962. Il m'avait abordé tout joyeux. Mon père, fait 2 ans aujourd'hui. Deux ans de quoi? De ma vocation, père, de ma vocation. » Et à partir du 2 juillet, pas un mot dans son journal. Faustino salue avec joie l'arrivée de l'année 1963, car c'est l'année où il pourra réaliser son rêve. Dans son agenda, il note des rendez-vous et des visites. Les 14, 15 et 17 janvier, il parle de ce garçon. Et le 23, après la retraite qu'il suit à Lacroix, il a rendez-vous avec lui. Une retraite, je le dis pour les jeunes, c'est des endroits où les jeunes vont avec sous la conduite de prêtres pour prier, écouter des sermons, attendre la messe, recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, se confesser, se transformer leur vie. Ça dure 2-3 jours. Alors voilà déjà un an que lui et un autre camarade se sont liés d'amitié avec ce garçon de leur âge, un garçon dont on ne sait pas le nom, qui travaillent dans des conditions vraiment difficiles, alors ils l'aident autant qu'ils le peuvent. Le 23 janvier, ils devraient lui rendre visite et, d'après l'agenda, lui porter des vêtements et des médicaments. Et Faustino ne sera pas au rendez-vous. Et vers la fin des vacances de Noël, se produit une rechute, qui est annoncée par des malaises fréquents, en novembre et en décembre, mais qu'il surmonte à force de volonté. Il disait « Je suis un peu souffrant, un peu ». En fait, il allait très mal. De plus en plus, il aura besoin d'aide pour s'habiller, pour aller en classe. Il résiste et à tout prix, il veut vivre les exercices spirituels pour les pré-universitaires, ceux qui vont rentrer à l'université. C'est programmé du 17 au 21 janvier. Ça. Il se rend donc pour la première fois à la maison de retraite et là, on le voit se traîner d'un endroit à un autre avec un courage admirable, de la chapelle à sa chambre. De sa chambre à la salle de conférence où il y a les sermons, les causeries spirituelles. Toujours le sourire aux lèvres, toujours. Et le prêtre dit, il me semble encore le voir essayant même de prier les bras en croix. Je prêchais cette retraite et je crois qu'elle lui a donné les forces nécessaires pour le sprint final de sa vie. Et dans ses notes se cachent des trésors. Voilà ce qu'il écrit dans sa méditation sur la mort. Nous devons dès maintenant accepter la mort. Une mort avec la Vierge, c'est merveilleux. Ô Christ, fais que j'ai toujours plus de dévotion pour Marie. Je veux être toujours intimement uni à elle. Ainsi, elle m'aidera à bien mourir, et j'aurai la mort d'un véritable saint. Vienne la mort quand et où Dieu le voudra. Elle viendra dans le temps, le lieu et la forme qui me seront les plus profitables, envoyée par Dieu notre Père. Oh, sois la bienvenue, notre sœur, la mort. Nous sommes donc en Espagne, nous aussi, avec le jeune Faustino, qui s'apprête à mourir et qui dit « Sois bienvenue, notre sœur, la mort », hein, comme saint François d'Assise. Est-ce qu'il savait qu'elle était si proche de lui, lui qui voulait tellement vivre et jouer et devenir prêtre? Peut-être y pensait-il quelquefois, mais le désir de vivre se révélait plus fort. Hein? Faustino voulait répondre à l'appel qu'il recevait de Dieu pour devenir prêtre. Ça lui semblait si clair et si évident, et c'est juste au moment où la réalisation de cet idéal semble tout près à la portée de la main, que ce même Seigneur Jésus lui demande le sacrifice de toute sa vie. Et Faustino, toujours fidèle, va prononcer son 4e oui, le oui à l'appel définitif. Le 23 janvier 1963, il doit s'aliter. Il a 16 ans et demi. La nature, qui jusqu'alors résistait avec l'aide de la médecine, la nature ne réagit plus. Le corps commence à s'effondrer. Les espérances, les illusions s'envolent. Mais il garde le moral. Alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut lui dire la vérité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? C'est un garçon courageux. C'est même un homme de foi. C'est un jeune homme. Il sera bien capable de prendre en main cette dernière partie de sa vie sur Terre. C'est vrai qu'on a trop tendance aujourd'hui à laisser les gens mourir sans qu'ils s'en rendent compte et sans leur laisser vivre humainement ce moment si important. C'est une chose de soulager leur douleur, mais c'est une chose bien différente, hein, Il me semble de dire aux malades la vérité sur leur état, que la grande rencontre avec Dieu va se faire. Et les parents de Faustino sont d'accord. Le 4 février, le prêtre raconte qu'il est allé le voir. Il dit « Je lui expliquais tout simplement la situation et l'impuissance de la médecine dans son cas. » Il me dit « Il me semblait bien que les médecins ne savaient que faire. » Puis il ajoute « Je suis bien préparé, n'est-ce pas, mon père? Qu'en pensez-vous? » Il dit « Oui, Faustino, bien sûr. » Il répond « Alors, ça ne fait rien. » Et quelques larmes sont venues à ses yeux. Il essaie de les retenir. Je lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, Faustino? Vous savez, mon père, pour moi, ça ne fait rien. » Mais quand je pense à la tristesse de papa et maman, alors le prêtre lui dit, il y a une solution, Faustino. Quand tu iras au ciel, tu les consoleras. Et c'est ce qui arrive avec ceux qui nous quittent. Ils nous consolent. Je suis sûr que mon fils au ciel me console. Et ma mère. Je sens leur aide depuis des années. J'en suis sûr. Le 9 février, le prêtre lui administre les sacrements des malades. Le journal du petit Faustino s'en fait l'écho. Ce sont d'ailleurs les dernières lignes qu'il y écrit. Il a 16 ans et demi, je vous le rappelle. J'insiste sur son âge, pour les gens qui n'auraient pas entendu le début de l'émission. Il écrit avant-hier, samedi. « A été un jour d'une immense joie pour moi. On m'a administré le sacrement de l'extrême-onction. Assez merveilleux de le recevoir en pleine connaissance. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. » Notre merveilleuse Mère du Ciel doit nous aider tous à devenir chaque jour meilleur. Donne-moi la force d'offrir ces petites souffrances pour les besoins du monde. Alors il lui reste à peine un mois à vivre. Les journées passent, paisibles, il souffre. Mais quand il se sent mieux, il lit. Oh, il aimait beaucoup lire. Il parle avec sa mère, avec qui il s'entend merveille. Quand je parle avec maman seule à seule, j'ai l'impression que le Christ est là au milieu de nous. C'est beau, hein? Je le répète, c'est si beau. Quand je parle avec maman seule à seule, j'ai l'impression que le Christ est là, au milieu de nous. Le dimanche 3 mars au matin, je lui porte, dit le prêtre, la communion. On voit qu'il souffre. Et dans sa main droite fermée, il serre une médaille de Marie. Elle m'aide tellement. Je retourne chez lui l'après-midi. Quand il m'aperçoit, il me dit, « Savez-vous si on va montrer à la télé le match de Valence? » Son club de football préféré. Et presque sans attendre de réponse, il sourit doucement. « Oh, que je suis bête, que je suis bête. Je ne pourrai pas le voir, je suis bien trop fatigué. » Et en effet, il tremble. Je lui demande s'il est préoccupé. Il dit « Non, mon père, c'est le corps. Il y a si longtemps que je ne peux pas dormir, mais j'ai une telle paix au-dedans de moi. » « Faustino, tu iras bientôt au ciel. Je voudrais te charger de quelques commissions pour là-bas. » Alors il dit « Bien sûr, je les ferai. » Et avec Faustino, parler de Jésus, de Marie du ciel, c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour lui, Jésus et Marie sont aussi présents dans sa vie que n'importe quelle autre personne qu'il fréquentait. Je lui demandais, dit le prêtre, de dire à la Sainte Vierge, de ma part, que je l'aimais beaucoup, de travailler au ciel pour les vocations religieuses et sacerdotales, car il fallait bien qu'il trouve, lui et Faustino, des remplaçants, et de ne pas oublier de consoler papa et maman. Que sais-je encore? Il était tout à fait d'accord. Il disait, bien sûr, je le ferai. Et il mourut le soir même, à 11h20. Et il tint sa promesse. Il n'y eut pas de larmes. Ceux qui ont vécu cette nuit du 3 au 4 mars 1963 ne l'oublieront jamais. Une immense paix, une joie sereine. Et le prêtre conclut en disant, est-ce là la sainteté? Je me le suis demandé très souvent après sa mort. À la fin de l'année scolaire, j'ai écrit une toute petite notice biographique pour les élèves. L'archevêque de Valence était alors un religieux salésien, l'a comparé avec saint Dominique Savio. J'étais perplexe. Une vie si normale et en même temps si merveilleuse. Faustino, un saint, il était si normal et en même temps si extraordinaire. Pour lui, être un chic type, c'était normal. Rendre visite à un camarade, c'était normal. Aider le prochain qui souffre, c'était normal. Parler avec le Christ de n'importe quoi, c'était normal. La présence de la Sainte Vierge dans sa vie, c'était normal. Respecter les filles, c'était normal. Suivre le Seigneur qui l'appelait, c'était normal. Il faut bien avouer qu'il avait raison. Ce devrait être normal. Mais malheureusement, ce n'est si peu courant. Et Faustino avait un magnifique cadeau de Dieu. Et pourquoi pas pour les autres? C'est pourquoi on peut raconter sa vie. Le 11 avril 1986, 23 ans après sa mort, il y a eu translation de ses restes à la chapelle du collège Nuestra Señora del Pilar, où il était élève. Le 17 octobre suivant, 86, il y a eu l'ouverture du procès diocésain de béatification de Faustino, et la clôture a eu lieu le 14 décembre 1990. Et cinq jours après, donc il y a 6 ans, un peu plus, s'est ouvert le procès à Rome. Il a écrit une très très belle prière. Ô bon Jésus, je te demande au nom de l'amour que tu as pour ta mère, que moi aussi je puisse l'aimer vraiment comme tu l'aimes et comme tu veux qu'elle soit aimée. Tu es vraiment merveilleuse, Marie. Ta vie n'est qu'une source de lumière et de grâce. Dès l'instant où Dieu t'a créée, tu t'éclatante de beauté, exempte de tout péché jusqu'à ce jour glorieux où tu fus élevé au ciel pour être placé sur ton trône de reine, tout près de ton Fils triomphant. Toute ta vie n'a été qu'une continuelle acceptation de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu t'a envoyé son ange, tu as répondu que ta volonté soit faite. Tu savais ce qui t'attendait, d'énormes souffrances lorsque ses frères de Jésus le mettraient à mort et le meurtriraient sur la croix, et tu l'acceptes malgré tout. Oh, tu es merveilleuse, Marie, ma mère.